Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 29 octobre 2021. Merci beaucoup d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Les États-Unis fuient la région en raison de la résistance des nations de la région et n'ont plus de place en Asie de l'Ouest. C'est ce qu'a déclaré le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique. Au Liban, la résistance libanaise salue la prise de position courageuse du ministre de l'Information concernant le Yémen. Et en Irak, le Hezbollah condamne l'attaque terroriste menée par le groupe terroriste Daesh. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le commandant-chef des corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a déclaré que les États-Unis fuyaient la région en raison de la résistance des nations de la région et n'avaient plus de place pour opérer en Asie de l'Ouest. Le général Salami a fait ses remarques lors d'une cérémonie jeudi tout en déclarant « Dans la bataille politique, l'islam et les musulmans sont sortis victorieux et c'est une réalité, une preuve de cette réalité et la fuite humiliante de l'ennemi américain de l'Afghanistan. » Le commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami a ajouté « L'arrogance mondiale fuit la région car elle n'a plus de place pour opérer dans la région de l'Asie de l'Ouest et les États-Unis ont été plus que jamais marginalisés », a-t-il martelé. L'exposition répétée par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU, des détails des travaux nucléaires de l'Iran est en partie motivée par des intentions de guerre psychologique, de ce qu'a déclaré le porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, Behrouz Kamalvandi, dans une interview exclusive avec l'agence de presse de l'Iran, l'IRIB. Kamalvandi a déclaré allant à l'encontre de son propre statut et de son propre, si vous voulez, de sa propre juridiction ainsi que du pays concerné, en l'occurrence l'approbation de l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique a exposé les détails des activités nucléaires de l'Iran dans ses rapports périodiques qu'elle publie sur le site web de l'agence auxquels les États membres ont accès. Soit alors que l'agence devrait publier de tels apports lorsqu'un DV développement ou bien un détournement majeur a eu lieu, a averti le porte-parole de l'organisation iranienne de l'énergie atomique. Compte tenu de l'incidence répétée de la publication de documents iraniens, il semble que ce soit une tendance en cours sous l'influence de certains pays avec certains objectifs, dont une partie mène une guerre psychologique, a-t-il précisé. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a qualifié le tout récent rapport du rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran de sélectif et de politisé avant de rejeter et de condamner les allégations ridicules et sans valeur avancées dans ce rapport contre l'Iran. Saïd Khatibzadeh, en réagissant à ce rapport partial et partiel et anti-iranien du rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Iran a qualifié le rapport soumis à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies de sélective et de positif. Au Liban, le Hezbollah salue la prise de position courageuse du ministre de l'Information. Le Hezbollah a salué la prise de position courageuse exprimée par le ministre libanais de l'Information, Georges Khourdahi, concernant son appel à la fin de la guerre saoudienne contre le Yémen. Le Hezbollah salue la prise de position courageuse et honorable du ministre de l'Information, M. Georges Khourdahi, relevant de son expérience médiatique, de son moral et de son patriotisme dans la défense du peuple yéménite opprimé. Il a bien fait de qualifier d'agression la guerre saoudo-émiratique qui a conduit à des effusions de sang, tuant des centaines de milliers de personnes et assiégeant tout un peuple menacé par la famine et les maladies, a écrit le Hezbollah libanais dans un communiqué. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Et en Irak, la résistance irakienne condamne l'attaque terroriste menée par Daesh contre le village d'Al-Rashad en Irak. Le Hezbollah condamne l'attaque terroriste menée par le groupe terroriste wahhabite Daesh contre le village d'Al-Rashad dans le district d'Al-Mogdadiyah dans la province de Diyala, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Cette attaque perfide montre que Daesh reste l'un des plus grands dangers qui menace l'Irak et son unité nationale et que les pays qui le patronnent et le soutiennent poursuivent leurs agressions contre l'Irak, sa sécurité et sa stabilité. Le Hezbollah se dit solidaire avec le peuple irakien. Il juge que ce crime condamnable nécessite l'unité des Irakiens et le déploiement de tous les efforts possibles pour traquer et déraciner les restes de ce groupe criminel afin de débarrasser les Irakiens de son mal. Selon le Hezbollah, le peuple irakien, son armée nationale et l'Hashd al-Shabi et les factions de résistance ayant une longue histoire dans la lutte contre le terrorisme sont capables d'accomplir cette mission et de sauvegarder l'Irak des dangers qui le menacent. Le Hezbollah présente ses condoléances les plus sincères au peuple irakien opprimé, à sa direction religieuse officielle, au parti, suppliant Allah d'accorder sa miséricorde aux martyrs et souhaitant un prompt rétablissement aux martyrs et la prospérité et la sécurité à l'Irak, lit-on dans le communiqué du Hezbollah irakien. Et en Tunisie, le président Kais Saied a appelé à une coopération et un partenariat plus fructueux et plus solide entre l'Organisation des Nations Unies et les différentes organisations régionales, particulièrement l'Union africaine. Cette déclaration a été faite par le président tunisien dans un discours à distance en marge d'un dialogue de haut niveau du Conseil de sécurité sur la coopération entre l'ONU et les organisations régionales, dont le thème était l'UAA renouveler la solidarité au service de la paix et de la sécurité dans un environnement de conflit en mutation. Le président Saïed a insisté sur l'impératif de fournir un appui adéquat aux opérations de maintien de la paix menées par l'Union africaine sous les auspices du Conseil de sécurité de l'ONU en les finançant par des contributions statuaires aux Nations Unies. Ici touche à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Guerre saoudo-émiratiste sur le Yémen. Le Hezbollah salue une prise de position courageuse du ministre de l'Information, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le Hezbollah libanais a salué la prise de position courageuse exprimée par le ministre du Liban de l'Information, Georges Ordaï, concernant son appel à la fin de la guerre saoudienne contre le Yémen. Le Hezbollah salue la prise de position courageuse et honorable du ministre de l'Information, M. Georges Ordaï, relevant de son expérience médiatique et de son moral et de son patriotisme dans la défense du peuple yéménite opprimé. Il a bien fait de qualifier d'agression la guerre saoudo-émirati qui a conduit à des effusions de sang, tuant des centaines de milliers de personnes et assiégeant tout un peuple menacé par la famine et les maladies, a écrit le Hezbollah dans un communiqué. Le Hezbollah a par ailleurs condamné la campagne injuste menée par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Conseil de coopération du Golfe Persique à l'encontre de M. Ordaï, affirmant qu'il s'agit d'une agression contre la souveraineté du Liban, la liberté d'expression de ses citoyens, loin des craintes et des menaces et un chantage inacceptable qui remet en cause la dignité de chaque Libanais. Et d'ajouter, nous rejetons catégoriquement les appels à la démission du ministre ou ceux l'incitant à démissionner, estimant que ces appels constituent une atteinte flagrante au Liban, à sa dignité, à sa souveraineté. Et de conclure, le Hezbollah dénonce en particulier les positions de certains politiciens libanais vendus et faibles d'esprit, ainsi que de certains journalistes et médias libanais qui ont participé à cette campagne rémunérée et l'a considérée comme une insulte claire à l'histoire médiatique libanaise, une grande chute morale et une pure insulte au Liban, à son peuple, à sa souveraineté et à sa dignité nationale. Rappelons qu'au cours de l'émission Parlement du peuple, diffusée le lundi 25 octobre sur les réseaux sociaux de la chaîne qatarie Al Jazeera, M. Ordaï, ministre libanais de l'Information, était interrogé sur la guerre au Yémen. Il a qualifié d'absurde la guerre saoudo-émirati qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de Yéménites, appelant à son arrêt immédiat. Il a également affirmé que l'aide Ansar Allah yéménite se défendent face à l'agression contre leur pays.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission aujourd'hui, on va en fait parler de l'Irak, où plusieurs jours après l'annonce des résultats des élections et législatives, et les manifestations se poursuivent contre, en fait, les résultats de ces élections. Les manifestants exigent le dépouillement manuel des bulletins et que les compteurs électriques émiratis ont largement, en fait, manipulé. Et dans le même temps, le mouvement de résistance islamique d'Irak, Al-Nujaba, par la voix de son porte-parole, a promis d'attaquer les militaires américains s'ils ne quittent pas l'Irak d'ici la fin de l'année. Lors d'une interview accordée à la chaîne irakienne Al-Soumaria, Nasser al-Shamari a annoncé le refus d'Al-Nujaba de participer à des compétitions politiques avant d'insister sur le droit du peuple irakien à contester la mauvaise action de la commission électorale. Mettant l'accent sur la contradiction entre les résultats définitifs et ceux indiqués dans le bureau de vote, il a critiqué l'annonce prématurée des résultats faits avant la fin du processus de dépouillement, mais aussi l'empêchement de la présence de représentants des candidats dans les centres de dépouillement manuels. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission, depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialisé des questions internationales, Maître Arnaud de voler. Maître de voler, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, toujours un plaisir. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître de voler, c'est un analyste politique et spécialiste des France et des questions internationales qui est avec moi pour cette émission en ligne depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Rostin, bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Arnaud Develet.
M. Dortiguier, on va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, l'annonce des résultats des élections législatives en Irak, la poursuite des protestations contre ces résultats. Les manifestants exigent le dépouillement manuel des bulletins de vote. Comment est analysez-vous ce qui se passe actuellement en Irak, s'il vous plaît?
Eh bien, cette réclamation des manifestants me semble justifiée, car nous avons, vous savez, déjà même aux États-Unis, eu des contestations de ce genre de vote électronique et qui naturellement est capable de non seulement de modifier mais d'enrayer complètement un processus électoral. Je crois que ceci est fort possible, car la première réaction, bien sûr, devant ce résultat effarant, quand même, de 59% d'abstention, disons, mettrait en cause, si je puis dire, non pas un parti politique ou deux partis politiques, mais l'ensemble même de la, disons, de l'administration, enfin, du gouvernement, des hommes politiques irakiens. Je crois que c'est cela qui a été poursuivi par ceux qui, disons, c'est approuvé, mais permettez-moi de dire que le sentiment que ces manifestants ont raison se permettrait, disons, cette déconsidération de mépriser, disons, l'autonomie, enfin de dégrader, si je peux dire, la qualité des hommes politiques irakiens, l'État irakien, et par là même d'asseoir une sorte de continuité de la présence américaine, par exemple, sous prétexte que l'État est trop faible, l'État est incapable, l'État est impopulaire, etc. Et nous devons rester, ou tout au moins pour quoi, à titre de conseiller, etc. Tout ceci me semble être en effet une sorte d'intrigue, vous voyez. Et je ne sais pas si c'est l'opinion de Maître Develet, mais il me semble quand même étonnant qu'il y ait autant de manifestations pour protester contre ce résultat. Et je crois que la situation difficile de l'Irak devrait au contraire amener une grande vitalité des partis politiques et par là même, disons, une participation populaire. Je pense qu'il y a eu pour ma part cette participation populaire, mais je crois en effet que les intrigues qui continueront du reste, hein, les intrigues étrangères, évidemment, seront autant de, comment dirais-je, de pièges, voyez-vous, sur la route de l'Irak. On présente ici, bien sûr, l'affaire comme étant une sorte de dispute entre les sunnites et les chiites, en ignorant, bien sûr, cet sentiment d'unité nationale qui est propre à l'Irak, que je connaissais déjà autrefois. J'avais vu une dernière chose, en 2005, lors d'un congrès à Bruxelles, délégation irakienne, j'ai aperçu, bien sûr, que quelles que soient les différences, par exemple, qu'ils pouvaient manifester envers l'Iran, ils avaient, disons, un sentiment d'unité nationale, sentiment patriotique. Je ne crois pas, disons, que sentiment patriotique, c'est celui-là qui est attaqué, justement, par des ennemis de l'intérieur et surtout de l'extérieur à l'Irak.
Maître de Vallée, est-ce que vous aussi vous estimez, en fait, comme M. d'Ortiguet, qu'il y a des pièges qui sont tendus depuis l'étranger à l'Irak et au peuple irakien, M. d'Ortiguet, qui parle en fait des ennemis, si vous voulez, à l'intérieur, à l'extérieur de l'Irak. Est-ce que, en fait, vous corroborez, M. De Vallée, cette hypothèse avancée par M. d'Ortiguet?
Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais ce qui est certain, c'est que si on pose la question qui bénéficie de cette, si je puis dire, ce résultat inconclusif des législatives irakiennes, de toute évidence, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont besoin d'entretenir le chaos et la division en Irak. Et dans ce contexte-là, on ne peut que constater qu'un parti qui pourtant avait annoncé à plusieurs reprises qu'il boycotterait ces élections, qui a souvent eu des positionnements un petit peu équivoques, on va dire, se retrouve aujourd'hui catapulté en tête du scrutin, donc en position de ce qu'on appelle « kingmaker », la coalition des Hashed est plus ou moins éparpillée, il n'y a pas eu de candidature unique, il n'y a pas eu dans ce sens-là ce qui aurait peut-être été souhaitable pour l'unité du pays de consignes particulières de l'ayatollah Sistani. Et ce faisant, la situation est plus trouble et plus confuse que jamais. Et en cela, les États-Unis, bien sûr, tirent leur épingle du jeu. Parce que, comme le dit le professeur d'Ortiguet, l'instabilité qui peut découler d'un vote qui était, je le rappelle, initialement prévu d'avoir lieu en avril, qui avait été reporté une première fois, qui avait été soupçonné dans l'absolu d'être assujetti à des tentatives de corruption. Vous ajoutez à cela effectivement le concept du vote électronique qui a défrayé la chronique depuis au moins les élections présidentielles américaines de novembre 2020, mais maintenant on réalise aussi depuis peut-être les élections françaises de 2017, donc des serveurs qui sont, si je puis dire, décentralisés et qui permettent, à la faveur d'une panne de courant, de voir des résultats complètement inversés se produire, des tendances lourdes complètement mises en dessous, avec souvent des résultats qui ne reflètent pas du tout la période pré-électorale en elle-même. Donc, on peut penser que dans ce contexte précis, effectivement, les États-Unis ont des raisons de sourire et il faudra surveiller de très près la situation dorénavant parce que, effectivement, ces protestations, ces démarches visant à recompter manuellement tous les votes peuvent elles-mêmes engendrer des tensions et des violences dans la rue, ce qui pourrait à nouveau reporter ou en tout cas offusquer ce que Al-Nujaba a bien eu raison de confirmer, à savoir le plus important, c'est pour l'Irak de voir les troupes américaines quitter le pays avant la fin de l'année.
Monsieur d'Ortiguet, vous venez de différer à Lisieux, Maître de Vallée également vient en fait de l'évoquer, cette présence cette militaire d'ailleurs américaine en Irak, cette exigence du côté de l'Irak, du côté, pour être précis, de la résistance irakienne du retrait des États-Unis. Et c'est dans ce sens que M. Dortigui doit interpréter cet avertissement lancé par le mouvement de la résistance islamique d'Irak al-Nujaba à l'adresse des États-Unis, comme quoi si les militaires américains ne quittent pas l'Irak d'ici la fin de l'année, ils seront considérés comme des cibles, M. Dortigui a avisé.
Naturellement, il faut savoir, mais vos auditeurs le savent, mais enfin je leur dis, c'est qu'il y a déjà eu un vote du Parlement irakien pour demander le départ des troupes américaines. C'est donc il y a déjà une sanction légale contre l'Amérique. Et c'est pour retarder justement, par tous les moyens, cette perspective, cette nécessité, disons. Mais en faisant croire que le pays est dans un chaos infernal, que les gens sont montés, non pas contre tel ou tel parti, comme je dis, mais contre l'État irakien lui-même, que nous avons affaire à une population anarchique, que nous avons ainsi de suite. Voyez-vous, ceci est certainement non pas ce qui est dit, mais ce qui est suggéré, disons, en tout cas, que je vois dans les commentaires d'ici. Voyez-vous, dans les commentaires, on ne parle pas français, en tout cas, on ne parle étranger, je crois, occidentaux. On parle très peu des manipulations électroniques, choses comme ça. On dit simplement qu'il y a, une difficulté à gouverner ce pays, voyez, ainsi de suite. Il y a un certain mépris, si vous voulez, envers le peuple irakien. Je ne parle pas envers les élites irakiennes, enfin les élites politiques, mais envers le peuple irakien, voyez-vous, qui est un peuple d'anarchie, etc. Bon, qui nécessite peut-être, pour eux, pour ceux qui font l'opinion chez nous, une présence américaine, voyez, malgré tout, parce qu'il y a quand même des... ainsi de suite. Tout ceci, ce sont des martèlements médiatiques. Il faut les prendre très au sérieux, malheureusement, car la population chez nous, le peuple chez nous, n'est pas du tout informé, voyez-vous, de cette situation en Irak, et se laisse conduire, disons, par de faux bergers, comme on dit autrefois, voyez-vous, de l'information. Et c'est tout à fait, je rends hommage à Maître de Velay de donner ces précisions, voyez-vous. Je crois que la réaction, si je puis dire, du peuple irakien sera, à mon avis, efficace. Et qu'il y aura un retournement de situation et qu'il y aura, disons, une sorte d'unité patriotique très forte. Alors qu'ici, on essaie de la diviser en mettant en avant, disons, des différences des différences confessionnelles, voyez-vous. Ça, c'est un jeu politique chez nous. Mais l'Irak a trop souffert pour ne pas, je terminerai là-dessus, conclurai là-dessus, pardon, l'Irak a trop souffert pour ne pas avoir de sentiments patriotiques. Mmh.
Maître de Velay, le porte-parole du mouvement de résistance islamique d'Irak al-Nujaba, toujours réagissant à l'annonce des résultats par la commission électorale, a précisé, là je cite M. Al-Shamari, porte-parole de ce mouvement, « Nous avons une position indépendante et nous ne soutenons pas les partis, mais nous avons documenté les fraudes de la commission. » Ça montre, semble-t-il, Maître de Velay, que la résistance irakienne ne veut pas parler comme porte-parole de ces manifestants, mais se range du côté de ces manifestants pour en fait soutenir leurs revendications légitimes. Autrement dit, la résistance irakienne veut en fait transmettre ce message comme quoi elle est, si vous voulez, du côté de ceux qui protestent contre, si vous voulez, les résultats de ces élections législatives. Quelle en est la portée et l'importance, Maître de Velay?
L'importance, c'est que malgré effectivement des protestations et des revendications légitimes par rapport à des faits de corruption, mais la corruption, elle est partout de toute façon. Dans chaque pays, il y a de la corruption. En Europe, il y a de la corruption. Aux États-Unis, il y a de la corruption. Le plus important, c'est pour l'Irak de recouvrer sa souveraineté pleine et entière. Et pour cela, l'opinion publique doit avoir confiance dans le processus électoral et pouvoir ensuite, si je peux dire, s'agréger autour du résultat du scrutin et créer donc un État fort. Sans État fort, les États-Unis auront toujours la possibilité de justifier leur présence en jouant les uns contre les autres et en entretenant le doute sur la légitimité des positions adoptées et par les uns et par les autres. J'ajouterais à cela qu'avec un État central faible, ça permettra au Kurdistan irakien, pour ne le nommer que par une expression qui ne reflète pas vraiment son statut juridique bien compris, de continuer à servir de base de déstabilisation dans la région, comme on a pu voir ces dernières semaines, sachant que le gouvernement central sera de toute façon incapacité et handicapé par des disputes internes, et ce faisant, pourra, à la lumière de son dysfonctionnement, et les Américains comptent sur ça, viser à peut-être pointer du doigt la résistance comme étant l'obstruction, voyez, à cette volonté populaire sortie des urnes. Alors qu'effectivement, tant qu'un dépouillement manuel n'a pas eu lieu, tant que peut-être un nouveau scrutin avec des modalités différentes, le doute sera toujours permis. Et c'est ce doute-là qui contamine tout le processus. Et c'est ce sur quoi les Américains comptent créer cette division, ce chaos, cette incertitude et peut-être se positionner sur des acteurs qui, pour des raisons personnelles, n'ont pas forcément l'intérêt général du pays à cœur, mais leur carrière ou en tout cas leur futur proche, leurs intérêts immédiats. Et ce faisant, encore une fois, sans État fort, sans État centralisé, qu'il soit de nature à refléter les votes parlementaires de janvier 2020 concernant le départ des États-Unis, ce sera difficile ensuite pour l'Irak de recouvrer sa souveraineté pleine et entière. Et c'est vraiment ça l'enjeu.
Monsieur Dorsiguet, Maître Develet vient de te faire allusion à ce vote du Parlement qui aurait été irakien en janvier 2000. En janvier en Irak, à l'époque où en fait le général Soleimani a été en fait tué en martyr lors d'un raid aérien terroriste américain à l'aéroport de Bagdad. Il y a toujours cette exigence du côté de la résistance, également du côté de ces manifestants, du retrait des forces américaines. Et du côté des États-Unis, Maître Develet dit que voilà, il y a cette volonté de maintenir l'Irak dans un état de confusion, d'instabilité. Mais du côté de la résistance aussi, il y a cette exigence du retrait américain. Et la résistance irakienne et ses manifestants qui se trouvent dans la rue insistent sur le fait que l'Irak, comme l'a dit Maître Develet tout à l'heure, soit reconnu dans sa souveraineté et dans son indépendance, M. Dorsiguet.
Oui, il s'agit en fait, dans ces manifestations de rue, d'une exigence nationale, patriotique. Il ne s'agit pas d'un mouvement partisan. Bien sûr, vous avez des partisans, mais disons qu'ils comprennent, ces groupes, enfin les partisans comprennent qu'il y a quelque chose au-dessus des partis, qui est l'existence même de l'Irak. Je crois que ce sentiment-là, à notre avis, est un réconfort. Nous le voyons comme quelque chose, disons, de très positif, et que, quand même, lorsqu'on voit un résultat, je dis tout à l'heure, mais comme sur 22 millions, je crois, d'électeurs à peu près, nous n'avons que simplement 9 millions qui se déplacent pour voter, bon, c'est impossible, voyez-vous. Surtout quand il s'agit de refaire une économie, quand il s'agit de bâtir un État, évidemment, on ne peut pas dire que le peuple est tout à fait, est entièrement indifférent à cela. Bon, on peut se discuter, disons, sur entre patriotes, enfin, entre gens d'Irak sur les solutions. Mais disons qu'il y a quand même une nécessité, un impératif d'agir. Il s'agit là, en fait, disons, ce trucage, je ne dis pas autre chose, électoral, utilisé en utilisant des moyens électroniques, disons, eh bien, est le signe, justement, que les Américains, si je puis me permettre de dire ça, cette façon un peu rude, continuent toujours leur guerre contre l'Irak. Eh bien, il faut que cette guerre cesse, elle ne peut cesser que par la mobilisation populaire, et nous la voyons aujourd'hui, il s'agit d'être au-dessus des partis, pas au-dessus des partis, oui, mais entièrement unis autour de la nation. C'est cela, à mon avis, qui est le seul souhait, le seul vœu. Disons que vraiment, en toute amitié, nous adressons, disons, au peuple irakien.
Maître de Volley, c'est de votre avis également, que, quels que soient en fait les résultats de ces législatives, cette nation populaire contre la présence militaire américaine en Irak se poursuivra?
Oui, absolument. Je pense que dans un premier temps, effectivement, on peut penser que les Américains ont réussi à reléguer leur départ, leur retrait de ce pays derrière le rideau. Mais de toute évidence, c'est un absolu dans la politique irakienne. Cela fait trop longtemps que ça dure. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les Américains ont investi énormément en Irak pour des raisons que nous n'avons pas le temps de revisiter ici, mais suffice de dire que rien que le coût de cette ambassade américaine, qui est la plus grande ambassade du monde en ce qui concerne les Américains, qui a coûté pas moins de 3 milliards de dollars, qui est un centre non seulement de surveillance, mais aussi d'espionnage, un centre d'opération, avec encore une fois ses bases au nord et dans la province d'Anbar. Donc les États-Unis, de toute évidence, n'ont aucun intérêt dans le contexte régional à quitter le pays. Et ça, c'est quelque chose qui reste une réalité qu'on ne peut pas contourner. Donc on peut penser qu'ils vont faire illusion et essayer de noyer le poisson dans l'eau sur ce plan-là. Mais je pense que fondamentalement, la question va revenir avec force et s'imposer d'elle-même dans le débat irakien.
Merci beaucoup.
Et ce sera à ce moment-là que les partis, les chefs de partis des factions les plus dominantes seront amenés à se positionner et on l'espère, comme le professeur d'Ortiguet, mettre de côté leurs intérêts propres respectifs et s'unir autour d'une cause commune.
Merci.
Pour que l'État soit à nouveau fort, centralisé et permettre une indépendance pleine et entière.
Merci infiniment, Maître Arnaud de Volley, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, la capitale de la Syrie. Mes vifs remerciements vont également à vous, Monsieur Pierre d'Ortiguet, d'avoir été avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
De cette année, l'opération militaire Africain Lion a mis en évidence les bonnes relations entre les États-Unis et le Maroc en matière de coopération militaire. Les résultats obtenus lors de ces exercices militaires ont conduit les États-Unis à organiser les manœuvres de l'opération africaine pour 2022. Ainsi, dans un tweet publié par l'ambassade des États-Unis au Maroc, il est indiqué que des militaires du Maroc et des États-Unis se sont réunis au siège de la région sud des forces armées royales marocaines pour se préparer à l'exercice Africain Lion 2022. Comment expliquer ces agissements militaires des Américains aux portes de l'Algérie? Luc Michel, géopoliticien belge, nous répond.
Donc, le Maroc est devenu au fil des années l'allié principal des Américains en Afrique. Tout d'abord, le Maroc est l'allié principal de l'OTAN en Afrique du Nord. Il a reçu d'ailleurs le statut d'allié privilégié. Secondement, les rapports étroits se sont développés entre l'armée marocaine et l'Africom. C'est dans ce contexte que prend place les fameux exercices Lion Africain 2021. En fait, l'armée américaine et l'armée marocaine ont déployé des troupes aux frontières de l'Algérie, mais également aux frontières du Mali pour intimider les colonels pro-russes de Bamako. Il faut constater quelque chose, c'est que la tendance de l'alliance entre les États-Unis et le Maroc, elle s'est renforcée au fil des années, surtout depuis que Donald Trump a reconnu la marocanité du Sahara, ce qui est un défi lancé à l'Algérie. Qu'est-ce qu'il faut constater? C'est qu'actuellement, il y a une confrontation géopolitique pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. La Méditerranée orientale, elle a été neutralisée par l'axe naval Sébastopol en Crimée, Tartous en Syrie, qui fait que les flottes russes maintenant rivalisent avec les flottes de l'OTAN. La confrontation s'est déplacée en Méditerranée occidentale. Ce que je dis là, c'est reconnu par l'amiral américain qui commande toutes les flottes américaines en Eurasie et en Afrique. Contrairement à ce qui se passe avec les armées, par exemple l'Africom, la marine américaine a gardé un commandement unique pour l'Eurasie et l'Afrique. Ceci s'explique évidemment parce que le point central, c'est la Méditerranée dans laquelle est déployée la 6e flotte américaine. Il y a actuellement donc une confrontation de la marine russe avec les marines de l'OTAN et la marine américaine pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Cette alliance se structure autour d'une alliance USA-Maroc qui fait face à une alliance Algérie-Russie. On donne aux Algériens le projet de redonner la base de Mersel Kébir à la flotte russe, ce qui lui donnerait un point d'ancrage en Méditerranée occidentale après la perte à partir de 2011 de la Libye. Mais les Marocains, eux, ils participent directement aux efforts américains pour contrôler la Méditerranée occidentale, en particulier par leur confrontation historique avec l'Algérie. Et il y a un projet actuellement pour transférer la base principale de l'US Navy, qui est en Espagne, vers le Maroc, ce qui donnerait des avantages économiques et militaires au Maroc. Voilà donc le contexte dans lequel tout se déploie. Le Maroc se surarme à partir d'armements américains et israéliens, au moment où l'Algérie renforce son armée avec des équipements d'origine russe. Les calculs du Maroc, ce sont des calculs à court terme. À court terme, le Maroc retire des avantages géopolitiques considérables, notamment pour les prétentions marocaines sur l'annexion du Sahara espagnol. Mais à long terme, c'est une politique extrêmement dangereuse. On sait que l'alliance américaine n'est pas fiable, comme vient de le démontrer encore l'Afghanistan. Mais à un moment donné, un Maroc lâché par les États-Unis se retrouverait seul face à la puissante alliance de l'Algérie et de la Russie. C'est cela qu'il faut retirer. Les exercices africains Lyon, Lyon africain 2021, ils prennent place donc dans l'alliance du Maroc avec l'US Army et avec l'Africom. C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. L'élément principal, c'est l'alliance avec la 6e flotte américaine en Méditerranée face à la flotte russe.
Des milliards d'euros pour innover l'OTAN nucléaire. L'OTAN est une structure éternelle. Elle a survécu à la disparition de l'URSS qu'elle vise à contenir et plus récemment à l'alliance AUKUS. Les récriminations françaises sont déjà oubliées, de même que les contreparties promises après l'annulation du contrat franco-australien. L'achat par la Finlande d'avions de chasse Rafale ne devrait pas avoir lieu, de même que la présence française au Sahel ne devrait pas durer. Cette semaine, l'OTAN a investi 1 milliard d'euros supplémentaires pour financer la recherche militaire états-unienne. L'OTAN a fini au grenier, écrivait-il il y a un mois, les consommateurs politiques de la presse écrite après que la France avait rappelé son ambassadeur à Washington le 16 septembre. Paris protestait ainsi pour avoir été exclu du partenariat stratégico-militaire entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Donc l'accord AUKUS annoncé la veille et avoir perdu un lucratif contrat pour la vente de sous-marins à l'Australie qui devait être remplacé par des sous-marins nucléaires fournis par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais une semaine après la retentissante rupture diplomatique, le général français Philippe Lavigne était placé à la tête du commandement allié de la transformation dont le quartier général est à Norfolk aux États-Unis et les présidents des deux pays, Joe Biden et Emmanuel Macron, publiaient un communiqué conjoint. Biden y affirmait l'importance stratégique de l'engagement français et européen dans l'Indo-Pacifique, la région qui, dans la géopolitique de Washington, s'étend de la côte occidentale des États-Unis à celle de l'Inde. La raison était expliquée par le communiqué militaire des chefs de la défense des 30 pays de l'OTAN réunis à Athènes. Alors que les actions agressives de Moscou menacent notre sécurité, l'ascension de la Chine est en train de déplacer l'équilibre des pouvoirs avec des conséquences pour notre sécurité, notre prospérité et notre style de vie. Face à ces menaces, concluait-il, nous avons besoin de l'Europe et l'Amérique du Nord soient forts, liés ensemble. Comment doivent-ils être liés? Biden le réaffirme dans le communiqué conjoint avec Macron. Les États-Unis reconnaissent également l'importance d'une défense européenne plus forte et plus capable qui contribue positivement à la sécurité globale et transatlantique et est complémentaire à l'OTAN. Donc une Europe militairement plus forte, mais comme complément de l'OTAN. Alliance asymétrique à laquelle appartiennent 21 des 27 pays de l'Union européenne, dans laquelle la charge de commandant suprême allié en Europe revient toujours à un général états-unien. Lesquels détiennent tous les autres commandements clés en Europe, comme le GFC Naples avec quartier général à Lago Patria. Sur ce fond, s'est tenue, les 21 et 22 octobre, au quartier général de l'OTAN à Bruxelles, la réunion des 30 ministres de la Défense. Elle a créé un fonds pour l'innovation avec une première allocation d'€1 milliard à la charge de 17 pays européens, mais pas des États-Unis, pour le développement des technologies les plus avancées à usage guerrier. Elle a lancé la stratégie pour l'intelligence artificielle, un programme encore plus coûteux pour que l'OTAN conserve l'avantage dans ce domaine qui est en train de changer l'environnement mondial de la défense, c'est-à-dire la façon de faire la guerre. Elle a décidé l'amélioration de la rapidité et de l'efficience de notre dissuasion nucléaire, c'est-à-dire le déploiement en Europe de nouvelles armes nucléaires, naturellement avec la motivation de se défendre de la croissante menace de missiles de la Russie. À la veille de la réunion de l'OTAN, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a averti que les États-Unis, avec le plein soutien de leurs alliés de l'OTAN, ont intensifié le travail pour moderniser leurs armes nucléaires tactiques et leurs sites de stockage en Europe. Et la Russie considère comme particulièrement préoccupant le fait que des pilotes de pays de l'OTAN non nucléaires soient engagés dans des manœuvres pour l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Message dirigé en particulier vers l'Italie, où les États-Unis se préparent à remplacer les bombes nucléaires B-61 avec les nouvelles B-61-12 et où les pilotes italiens sont entraînés à leur utilisation même avec les F-35. Nous considérons cela comme une violation directe du traité de non-prolifération des armes nucléaires conclu Shoigu. Le message est adressé à l'Italie et aux autres membres européens de l'OTAN qui, bien qu'ayant ratifié le traité de non-prolifération en tant que pays non nucléaire, hébergent des armes nucléaires et s'entraînent à leur usage. La signification implicite du message est claire. La Russie considère ces pays comme une source de menace et est en train de prendre des contre-mesures. Le message a été, comme d'habitude, ignoré par les gouvernements occidentaux et les parlements et évidemment par les médias qui ont mis l'OTAN au grenier.